Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres du... Non,
non, non, non, non.
Mais que diable, les différents jeux de galère!
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des bois à l'autre problème.
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro de février de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prendra à nouveau le temps de vous parler de spectacles vivants. Cette émission vous est proposée en coproduction entre le Tangram et Principe Actif. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Et bonjour JC.
Alors, Nathalie n'est pas encore arrivée, mais elle ne saurait tarder, elle va nous rejoindre. Au menu de cette émission, nous recevons une bande.
La bande à Léon. Effectivement, nous avons à nos micros avec nous Audrey Bertrand, metteuse en scène et comédienne, et Noé Filger. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Vous êtes comédien, vous faites tous les deux partie du collectif de la bande à Léon. Et avec vous, nous allons parler de la mère de Poséidon, Encadie. Bienvenue Audrey, bienvenue Noé.
Merci. Bonjour.
Nous poursuivrons, j'ai le conducteur sous les yeux, il y a un petit trou, mais nous saurons le remplir sans aucun problème. Nous poursuivrons avec l'agenda non exhaustif du mois de février,
tout à fait. Et comme d'habitude, notre extrait de film pour clôturer cette émission.
Et puis une autre de nos traditions, c'est l'extrait sonore que je n'ai pas préparé mais que je vais attraper dans la seconde. Il est juste là, il vous attendait. C'est un extrait sonore, une captation de micro, quelque chose d'imprévu.
Ok, merci beaucoup. De rien.
C'est pour une émission de radio avec Principe Actif qui va passer la semaine prochaine, qui va être diffusée la semaine prochaine.
Ouais.
C'est des collégiennes qui font partie de ce projet.
Des élèves de 4e du collège de Breteuil.
4e. Quel est votre métier?
Je suis à la retraite.
Ah.
Amusant. Retraité peut-être.
Alors, j'y sais où les micros de la radio sont allés traîner.
Eh ben, ils sont allés traîner dans les rues de Breteuil-sur-Iton, déjà. C'est là où j'ai capté ce petit instant. C'était la petite partie off. C'était avec des collégiens en quatrième. Là, il y avait une grande question autour de l'emploi. C'est un dispositif un petit peu particulier. C'est le Cap Ambition. C'est des gamins qui ont besoin déjà de s'orienter en quatrième, voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont choisir une troisième spécifique? Parce qu'il existe plein de troisièmes spécifiques, notamment celle avec les stages pratiques, ce qu'ils appellent la troisième découverte métier, sur lequel il y aura 4 stages pratiques qui leur seront proposés. Là, ils sont en préparation dans cette quatrième à cette orientation et ils se posent des questions sur le milieu professionnel, sur le métier qu'ils aimeraient faire. Et avec la radio, bon, on s'était dit que c'était un bon outil pour pouvoir les rencontrer des professionnels, leur poser des questions. Finalement, tout ce qu'on ne peut pas faire quand on est comme ça à pousser une porte, mais sur lequel on devient légitime dès qu'on a un enregistreur et qu'on fait un reportage. Donc on leur permet d'être légitime à poser des questions à tous les professionnels qu'ils souhaitent afin de définir un petit peu leur projet. Et puis aller rencontrer des gens, leur parler d'égal à égal quand on est une jeune fille ou un jeune homme de 13 ans, c'est pas si simple que ça finalement, aller rencontrer un adulte, lui poser des questions de manière très directe, c'est pas si facile, donc c'est un vrai exercice de préparation qu'on a. Et là, c'était la toute première séance où on était dans la rue, questionner les gens sur leur parcours professionnel, comment ils ont changé de métier en cours de carrière, comment ils ont fabriqué ce parcours tout au long de leur vie, et ça a éclairé pas mal les jeunes sur comment fabriquer un parcours professionnel. Quand on est en quatrième et qu'on doit commencer à le projeter, ce parcours, c'est plutôt pas mal. Et cette émission a été diffusée la semaine dernière, en fait. Hein. C'est des rushs d'il y a une quinzaine de jours, quand même. Hein.
D'accord.
C'était pas frais, mais...
On peut retrouver l'envers du décor. Enfin, on a entendu l'envers du décor, et donc on peut retrouver l'émission montée et préparée sur les ondes de Principe Actif.
Tout à fait, elle est en podcast dans la catégorie VBC, Verneuil-Breteuil-Conche. C'est un projet de Breteuil, donc on peut retrouver dans les podcasts, dans la catégorie VBC, Verneuil-Breteuil-Conche.
Et on parlait découverte des métiers, mais c'est aussi la découverte des métiers de la radio, finalement.
Alors un petit peu, alors on va leur dire qu'il n'y a pas de débouché quand même, hein. ça pourrait être vieux, mais en tout cas, oui, c'est, alors les métiers de la radio, oui, ils découvrent un petit peu, mais c'est surtout la mise en confiance. Comment, quand on est un élève qui n'est pas forcément en réussite scolaire, je dis bien scolaire parce qu'on peut être en réussite sur plein d'autres points, quand à l'école ça galère un peu, en fait il y a besoin de regonfler un petit peu cette confiance, hein, parce que les notes, les bulletins de notes, quand on a souvent des notes, quand on a en général des notes en dessous de 10, ça aide pas à avoir une grande confiance en soi. C'est aussi les mettre en situation de réussite. Quand on fait nos ateliers radio, on leur donne une garantie, nous, à chaque fois. On leur promet qu'ils seront en réussite face au micro. Sous réserve qu'ils s'investissent un peu, bien sûr. Mais on leur garantit la réussite. Parce que la réussite de l'un n'est pas celle de l'autre. La réussite de l'un va être un interview, je sais pas moi, d'un conseiller municipal. Et peut-être la réussite de l'autre, ça va être de désannoncer un morceau qu'il aura choisi et de parler de l'artiste qu'il aura choisi. Mais c'est les mettre en réussite. Et ça, c'est important d'être en réussite. De fabriquer des situations de réussite.
Ce qui est à leur portée, à la portée de chacun.
Tout à fait. Voilà,
c'était
ce petit extrait sonore.
Je voulais recommencer l'émission.
Non, je voulais pas la recommencer, je voulais faire un petit geste artistique.
Ah
là.
D'accord, ok, bon on peut.
Moi ça me rappelle quand j'étais petit que je tournais les pages du livre quand j'avais la cassette qui tournait dans le truc là. Ouais, il y a un petit côté comme ça. Hein. Ça nous amène à notre toute première pause musicale qui avait été choisie... Par Nathalie, c'est ça?
Non, par toi.
Par toi, mais je dis des
petit
bêtises.
Petit clin d'œil
carrément
à la programmation du Cube, puisque on a choisi un morceau de Glauque qui sera demain soir, samedi 10 février, au Cube, à 20h, avec comme première partie Brique Argent.
J'aime pas l'appellation, les menaces factices, j'aime pas les sommations. Je fréquente les abysses de l'air dans les poumons, voire même les abîmes, je leur ai pas donné de nom. Je suis pas un artiste, pas d'autofellation, pas un arbitre, j'ai pas trouvé le bon. Je suis une balance, je flanche sous le poids, change quand tout va. Je suis bourré d'incohérence, je suis bourré d'intolérance, je suis doué impertinent, je suis doué sauvage, étudiant intermittent. Je suis l'ego de la réussite, la peur de l'échec, je suis les mots le lyriciste, l'insulte et le blasphème, insuffler un casse-tête. Le souvenir l'oubli, je suis l'amour parti, redécouvert, je suis à découvert, intégré caché, je suis l'étalage pudique, les talons pugnaces, le linge sale en public. Je suis l'égocentrique, introverti, aux airs de geek. Je suis l'intello du premier rang qui vient pas en cours. Je suis l'amour qu'on se porte, indéfectible, qui se lasse vite, je suis indétrônable, mais perfectible. Je suis l'oracle, la vérité, le mensonge absous, la rage, rancunière qui excuse tout. Je suis l'homme de ma vie, la femme de ma vie, les femmes de mes mois, les femmes de mes nuits. Je suis l'infime détail, grandiloquent, la nature humaine qu'on a retenue dans l'ambre, ou le livre blanc qui a vu baver l'encre de mes poumons rances, jusqu'à la plume acide. Bref, je suis le vendu qui consomme, la fêlure qui répare, la du drame, celui des consonnes. Je suis l'histoire qu'on vit pour l'écrire, l'aventure avortée. Je suis la peur de vivre, je suis la porte de fils, la raison par les sentiments. Je suis la tentation à laquelle on résiste, les échymoses, les bobos qui font rêver chez les autres et pleurer chez soi. Je suis la résultante de choix par abstinence, le vote blanc, le quotidien moyen, avec et sans moyen. Je suis le temps gris, je suis aussi l'ambition qui dit tant pis. Et je suis la mer par la tempête, le romantique pathétique, le clown et le alcoolique, le dépressif parodique. Je suis plusieurs mois, mais je suis pas un artiste. Parfois juste triste.
Plusieurs mois de Glauque à retrouver demain sur la scène du Cube à Évreux, tout simplement.
Tout simplement.
Et ben voilà. On vous l'avait dit, nous recevons une bande, c'est la bande à Léon que nous avons. Deux représentants de cette bande, Audrey et Noé, sont avec nous. Audrey, metteuse en scène, et puis Noé, comédien. C'est une bande, et vous avez insisté sur cette notion, c'est pas une compagnie, ça monte sur les planches tout de même, mais c'est plutôt dans la définition du collectif. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de collectif déjà dans la bande à Léon ?
Oui, tout à fait. C'est effectivement, on insiste aujourd'hui nous beaucoup là-dessus. Bien sûr qu'on est une compagnie de théâtre, de toute manière, on est une association. Mais avant tout, on a envie de se revendiquer tous ensemble en collectif. C'est-à-dire que finalement, on est assez nombreux, comédiens, comédiennes, plasticiens, metteuses en scène, scénographes. Et l'idée, c'est que même si je suis metteuse en scène et je vais faire la direction finalement au plateau, c'est de choisir le fonctionnement de notre collectif ensemble, c'est de se questionner ensemble sur nos sujets de recherche, sur ce qu'on va présenter aux spectateurs, de se questionner ensemble sur notre rapport au public, notre rapport à l'autre, sur la construction, sur ce que revendique finalement notre collectif. Nous, on a quand même, je pense, sans me tromper, pouvoir dire que on a quand même envie de revendiquer une façon collective de fonctionner, même sociétalement, de façon plus large. Donc du coup, on l'applique à notre petite échelle sur notre façon de penser le théâtre.
Ce qui veut dire que sur les répétitions, sur les créations, c'était un joyeux bazar ou c'est chacun... parce qu'il y a quand même des rôles parfois assez clairs et essentiels des fois au bon déroulement. Il y a une méthode bande à Léon, c'est ça? Comment ça marche? Concrètement, ça se traduit comment sur la mise en œuvre?
Oui,
ou la création même?
Forcément, oui, sur la création. Bah, chaque collectif, chaque groupe invente sa façon de s'auto-gérer, de s'auto-gouverner. Nous, en l'occurrence, c'est vrai que quand on est au plateau, sur scène, c'est Audrey qui dirige, qui est la metteuse en scène. Après, voilà, on s'organise ensemble, comme l'a dit Audrey, en fait, après, au quotidien, dans toutes les tâches d'une compagnie de théâtre classique.
Oui, enfin, là, on dit Audrey, mais l'idée aussi, là, il y a Marine, donc du coup, qui est une autre personne du collectif qui va aussi rentrer en mise en scène. Majoritairement, ça a été moi pour l'instant, parce que la vie a fait que, quand on s'est rencontrés, je faisais une mise en scène. Mais effectivement, alors c'est pas du tout un joyeux bordel, pas tant que ça en fait. C'est un joyeux bordel quand on fait des réunions, par contre, parce que évidemment, quand on est nombreux, on est d'accord, pas d'accord. Et l'idée, c'est de trouver comment on peut être d'accord. Donc finalement, le consensus collectif, parce que plus on est nombreux à être d'accord, plus pour nous, c'est ça qui va fonctionner finalement. Bon voilà, c'est peut-être un peu naïf et utopique de dire ça, mais c'est vraiment l'idée. Donc quand on fait des réunions, ça peut durer, au lieu de durer 20 minutes, ça peut durer effectivement 3-4 heures pour trouver le bon endroit. Mais c'est souvent après, effectivement, exactement ce qu'on voulait faire ensemble. Et puis on a aussi, ça nous permet aussi de nous répartir des tâches qui peut être très trivial, de la prise de billets de train pendant que quelqu'un d'autre fait autre chose, à la communication, voilà. Et en fait, finalement, pour nous, le collectif, c'est une force de frappe, c'est une force d'attaque. Et puis encore une fois, c'est une façon de voir la vie, quoi.
Ben, on pense toujours qu'à plusieurs cerveaux, on réussit mieux à trouver la vérité qu'avec un seul cerveau.
La rencontre, justement, elle a eu lieu comment entre vous tous au sein du collectif? Est-ce que c'est quelque chose qui était évident et que c'est arrivé comme ça, presque naturellement? Ou est-ce que c'est vraiment des histoires de rencontres et que ça s'est fait comme ça, un peu au fur et à mesure?
C'est des histoires de rencontres, c'est des histoires de hasard. Après, est-ce que vraiment c'est du hasard? On ne sait jamais, mais en tout cas, il s'avère que ça a été souvent finalement au projet. Quand on était, alors avec Noé, nous on s'est rencontrés très jeunes, finalement en premier. Enfin,
oui.
Sur la première mise en scène que j'avais faite à la sortie de l'école. Oui, voilà, on avait 21 ans. Et puis en fait, au fur et à mesure, cette façon de penser d'une personne qui est metteuse en scène, c'est comme ça que moi j'ai commencé, cela dit. J'étais metteuse en scène et j'avais ma compagnie avec une autre femme. Et puis en fait, au final, on s'est dit, bah non, mais c'est pas possible, on est en train de tout faire ensemble, on peut pas continuer à avoir quelqu'un qui gouverne et qui demande à tout le monde de faire la même chose que lui et en même temps qui est pas d'accord. Enfin, ça nous convenait pas du tout. Et du coup, au fur et à mesure des projets, des rencontres, de nos actions sur le terrain aussi, je crois qu'il y a quand même ça aussi, de nos valeurs profondes. À chaque fois, il y a quelqu'un qui a dit, bah moi, je voudrais bosser plus longtemps avec vous. Ok, c'est parti. Et puis, bah ça a grandi pour finalement se constituer en collectif. Puis c'est une réflexion globale en fait de tout le monde qui a dit, bah voilà, quelle est ma place, quelle est ta place, et comment on trouve notre place ensemble. Voilà, mais c'est des hasards, c'est plein de petits projets, c'est plein de rencontres autour de l'artistique quand même toujours.
Ce qui vous relie, en tout cas, ouais. Cet endroit-là, ouais. qui vous relie. Vous disiez, Audrey, le terrain, les rencontres, il y a quand même, quand on regarde l'activité en fait, du collectif, c'est quand même très marquant parce qu'il y a une attention très portée en fait, sur tous les types d'actions culturelles. C'est-à-dire que, effectivement, moi, j'ai été vraiment surprise de découvrir l'espace d'action culturelle qui était dévolu, en fait, dans votre activité. Il y a évidemment les créations, mais il y a quand même un volet impressionnant d'action culturelle. Comment ça vient, ça, en fait ? Alors, on sent hein, qu'il y a ce besoin du terrain. Là aussi, c'est un besoin de rencontre, c'est un besoin d'aller se frotter à d'autres regards et une autre façon de s'approprier un texte ou voilà, un projet. Voilà. Comment ça se fait qu'on accorde autant d'importance, en fait, dans le projet d'un collectif à cette partie-là ?
Alors, avant de laisser répondre Audrey, déjà, je voulais prendre la parole pour dire que il y a aussi d'où on vient. En fait, quand on fait du théâtre, c'est pourquoi on fait du théâtre, comment on s'est retrouvé à faire du théâtre, c'est toujours des parcours un peu singuliers. Et en fait, tous, quand on regarde un peu les origines sociales de la bande à Léon, on vient tous de classes moyennes ou de classes populaires. Et en fait, on a découvert le théâtre un peu par hasard et on s'est rendu compte de la chance d'avoir des professeurs qui nous ont fait découvrir le théâtre. Une rencontre, une troupe qui est venue à un moment donné quand on était à l'école, au collège, au lycée, un petit atelier. En fait, ça s'est fait un petit peu comme ça, de façon très, populaire, je dirais. Enfin, je sais pas, Audrey, si t'as le terme. Mais en fait, après, nous, en termes de valeurs, en tout cas, on vient pas du tout de famille élitiste. On a été baigné dans la culture depuis notre tendre enfance. Ouais. Pour nous, c'est pas du tout un acquis, en fait, la culture. Et on s'est dit, en tant qu'artiste, on s'est dit, mais on peut pas juste faire notre travail sur une scène et ne jamais rencontrer notre public. C'est pas possible. Et après, il y a eu cette réflexion que, Audrey, je vais te laisser développer. On s'est dit, on a aussi envie de créer à partir du réel. Donc, comment, à partir de nos actions, en fait, ont pris le pas et ont fertilisé nos terrains de jeu après, nos sujets sur scène.
Il y a une notion d'aller-retour entre la création, l'action culturelle et la création, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment aller vers, faire pour, faire ensemble. Mais c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Cécile, parce qu'effectivement, nous, justement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté en collectif. L'action territoriale, en tout cas, ou l'action culturelle, peu importe le nom politique et savant qu'on veut lui donner. Mais en tout cas, aller travailler avec les publics, ça fait vraiment partie de l'ADN, de la base de notre collectif. Mais attention, j'ai envie d'être vigilante, et c'est aussi ce pourquoi on se bat. Dans le théâtre aujourd'hui, la façon de penser l'action culturelle, c'est quelque chose qui est mis très à côté. Et nous, on n'est pas pédagogue, en fait. On est pédagogue et on ne fait pas d'art, auquel cas notre action n'aurait pas de sens. Pour nous, justement, le choix qu'on a envie de faire, il y a plusieurs volets à ça, mais c'est très politique, en fait. C'est que on est artiste, certes, mais on peut très vite s'enfermer, en fait, en ayant tous le même opinion, le même endroit de vie, plein de choses, et ne plus être finalement accroché et être dans le réel, et auquel cas se pose la question de à qui on destine nos spectacles et pour qui on parle. Et pour nous, c'est essentiel, effectivement, de toujours aller à la rencontre de tous les publics. Alors c'est vrai que c'est très fort chez nous, parce qu'on va pas aller vers les jeunes ou vers les seniors, ou enfin on a envie de rencontrer tout le monde et sur tous les territoires. Donc effectivement, on va travailler avec les prisons pour hommes, pour femmes, avec les lycéens, avec les jeunes en décrochage scolaire, avec les hôpitaux psychiatriques, avec les enfants autistes, avec les plombiers de telle ville qui ont envie de faire une petite action ou de récupérer la parole, avec des enquêtes quantitatives ou qualitatives de grande envergure. On peut faire avant une création, notamment, on peut avoir presque 2000 heures d'action sur le territoire, presque un an et demi. Parce qu'il y a ça, peut-être, que je dois préciser, dans notre façon de créer, on va sur le territoire, effectivement, récolter la parole, travailler. On travaille actuellement sur un sujet qu'on appelle les non-lieux, ça c'est un sociologue qui s'appelle Marc Auger qui l'a défini en tant que tel, qui sont en fait tous ces lieux de rencontre, de passage, mais où personne n'habite, qu'on connaît tous. Donc ça peut être les supermarchés, les aéroports, les aires d'autoroute, les gares, etc. C'est des sujets qui en fait sont communs à tous. A priori, tout le monde a au moins été une fois dedans. Et qui en fait, pour nous, c'est le prétexte à création, c'est matière à débat. Et puis en fait, du coup, ça nous emmène sur des rencontres magnifiques avec les gens et des débats. On part de « Ah bah oui, une petite anecdote au supermarché, j'ai fait ci, ça, ça. » Et puis après, on en vient à où est-ce qu'on en est dans la société, comment on voit notre rapport à l'autre. On parle d'homophobie, on parle de... Enfin bon, voilà, après, ça dérive sur des trucs immenses et qui, en fait, reviennent à plein de moments. Par exemple, sur les supermarchés, on a eu des anecdotes qui étaient très souvent les mêmes. Du coup, évidemment, elles sont dans notre spectacle. Et évidemment, ces gens, en plus, comme ils nous ont rencontrés longuement, bah, la barrière, la frontière un peu invisible artiste public, bah, elle est cassée. Donc du coup, ils sont ravis de venir nous voir. Et puis là, on leur dit, ah, vous avez vu, on a parlé de ce moment là, j'avais très envie d'avoir cette chanson, qu'est-ce que vous en pensez? Puis du coup, bah là, hop, ça rentre dans la création, etc. Nous, en fait, on combat quand même un truc assez fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va sur le territoire, on nous dit, ouais, mais le théâtre, en fait, c'est pour les riches, pour les blancs. Enfin voilà, c'est pas pour nous, c'est pour éloigné, les vieux. Ouais, c'est éloigné, ça nous concerne pas. Et en fait, pour moi, en fait, le théâtre, c'est tellement politique et c'est tellement le début. Enfin, je dis pour moi, mais pour nous, pour le coup, c'est tellement le début d'une réflexion, d'un débat et de quelque chose d'ultra naturel. Et c'est un prétexte à faire tout ce qu'on a envie de faire. Sociétalement, c'est presque un acte citoyen, quoi. Donc,
en fait, vous emmenez le théâtre à la rencontre des gens. Vous faites ce premier pas d'aller vers les gens, en fait, pour ensuite qu'ils aient envie aussi de venir et de vous rencontrer sur la scène, en fait, dans ce couvert ouvert. Ça questionne vraiment qui est une vraie problématique de lieu aussi, hein, de dire comment on fait pour que les gens viennent dans le théâtre, en fait. Ouvrir les portes du théâtre, c'est ça, c'est sans doute sortir aussi les artistes des plateaux et des lieux de représentation pour aller à la rencontre. Et pour que l'échange, il ait lieu, en fait.
Moi, j'entendais dans ce que vous disiez, Audrey, finalement, c'est comment, à travers tous ces petits moments ordinaires et ces lieux ordinaires, finalement, auxquels on ne prête pas plus d'attention que ça, vu que ça, c'est l'ordinaire du quotidien, comment on arrive à en extraire, finalement, ce que nous en sommes, ou finalement, presque ça y est, j'ai perdu le mot, mais en tout cas, en faire quelque chose d'un peu plus exceptionnel, finalement, tout cet ordinaire. Oui, en faire théâtre, en faire spectacle. Ouais. Mais du coup, quand on fait théâtre, quand on fait spectacle, ça renvoie presque une analyse ou une compréhension différente de ce qu'on vit. Une fois sur le plateau, cette discussion d'abribus prend une autre dimension. cet échange dans le rayon du supermarché devient quelque chose sur lequel presque je peux me questionner, ou en tout cas... non, mais il y a quelque chose comme ça. Tout à fait. Mais c'est tous ces moments finalement ordinaires qui nous échappent et qui rend du coup ce théâtre, on va dire, je sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas populaire.
Ouais, et sociétal finalement.
Et sociétal, ouais, non, tout à fait.
Oui, c'est le principe même de théâtralité, c'est quand on met quelque chose de totalement qui pourrait paraître totalement anodin, mais on le met sur une scène devant un public, le public se reconnaît là-dedans et en fait d'un coup ça devient presque politique et en fait voilà, ça a une portée beaucoup plus large que simplement cette petite scène dans la rue qu'à la base on voyait.
Quand vous évoquiez tout à l'heure l'action culturelle, je rembobine un tout petit peu là. Moi, j'entendais quand même qu'il y avait aussi une notion de transmission, au-delà d'alimenter le propos de l'un, de l'autre, au-delà de s'alimenter. J'entendais, et notamment dans ce que disait Noé tout à l'heure en introduction, c'est des rencontres, on arrive au théâtre un peu par hasard. Finalement, c'est reproduire un peu ce hasard pour d'autres aussi. J'entendais un peu ça en filigrane. Peut-être que je me trompe, mais non, j'entendais un petit peu ça. C'est recréer des situations que peut-être même vous avez vécues.
Ben oui, c'est ça. Enfin, pour nous, ça, le théâtre, dans la bande à Léon, mais comme beaucoup, beaucoup de comédiennes et comédiens, ça a été vraiment un vecteur de liberté, d'épanouissement, de partage. Et on l'a vécu quand on était enfant ou ado, quand on a découvert le théâtre, ça nous a permis de regarder les autres en face, de parler, de s'assumer, d'avoir plus confiance en nous. Et en fait, tout ça aussi, on a évidemment envie de le transmettre. Donc, on le fait à travers nos créations. Donc, à chaque fois, on parle de nos créations, on va vers les jeunes ou les moins jeunes à travers les sujets, en faisant des enquêtes, etc. Mais toujours, il y a cette idée aussi, bien sûr, de transmission, de partage vers l'autre, en fait. C'est une rencontre.
Je propose que nous fassions une petite coupure musicale, si vous le voulez bien. Et puis, nous continuerons, bien entendu, à échanger avec Audrey Bertrand, metteuse en scène et comédienne. Et puis, Noé Flieger, qui est comédien. C'est la bande à Léon que nous avons avec nous. On se retrouve après. Alors, est-ce qu'on envoie Nicoletta maintenant? C'est une question que je vais poser à Audrey directement, parce que ça alimente aussi notre discussion. C'est une discussion qu'on a eue juste avant de prendre l'antenne. On a plusieurs morceaux. Est-ce que c'est le moment de Nicoletta?
Pour moi, Nicoletta, c'est la conclusion. Donc
Ah, donc on le met pas maintenant? Gaëlle Faye, alors. Ouais, exactement. Voilà, qui est très bon aussi. À trop courir.
De mauvaises herbes insoumises lézardent les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi je téléphone, je télécommande et je télévision, silence on tourne, on vit, on rit, mais ça ressemble à du playback. Mon banquier c'est James Brown et tous les mois c'est payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star, à l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, souvent sur PayPal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans les cuisines de l'Audimat. Du pain et des jeux pour calmer les ventres creux, du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la pluie pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. Après mes rêves, à force des courbes se dessinent sous mon regard sonifère. J'ai voulu décourber les chines à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages. Voyez les valises sous mes yeux, elle m'invite au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image. Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage. J'ai peur, je cours, je veux d'autres odeurs pour mes narines. Je danse, je tourne, petite ballerine sur baril de poudre. La poésie que je brode, c'est de la dentelle à coudre. Quand c'est l'orage dehors, j'en ai plus rien à foudre. J'ai fait des rêves d'un rien, maintenant j'ai rien que mes rêves. Et c'est leur loi des reins qui fait que je dérive loin au large. J'ai vu mon île, tu sais, touché au but, j'y vais enfin, j'essaie. Des paquets de rimes pour que mon âme affleure. Je veux faire des victimes avec des armes à fleurs. Je ralentis le pas, je reprends mon souffle, parfois. Et il y a mes rêves qui tardent, face au cadran qui tourne. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. Après mes rêves.
À trop courir, et puis c'était l'occasion de revenir juste entre deux comme ça, puis on était d'accord autour du plateau. Gaël Faye, je rappelle, c'était l'auteur du petit livre Petit Pays, justement, assez exceptionnel comme témoignage de parcours de vie que je conseille bien entendu à tout le monde. J'allais dire ça se lit bien. C'est quand même assez dur. Hein. Ouais, c'est quand même assez dur, mais ça, c'est voilà, petit format, ça se lit bien et c'est assez exceptionnel. Gaël Faye, Petit Pays. Et puis toute sa musique, toute bien sa musique, entendu, qui est très inspirante. Bonjour Nathalie, je profite à glisser entre
bonjour,
deux.
Bonjour à toutes et à tous, désolée, je suis enfin arrivée, et avec vous.
Eh ben c'est parfait. Cécile.
Oui, on poursuit du coup voilà, avec Audrey invités. Et Noé. Alors on a parlé effectivement du territoire, et Évreux commence aussi à être un des territoires sur lesquels vous êtes beaucoup présent aussi. Là vous êtes depuis le début de la semaine au Théâtre Le Gendre, en résidence, justement pour la création d'une petite forme, d'une forme plus petite et plus légère que la
Hors les murs.
Hors les murs, voilà. De la mère de Poséidon en Cadi, qui justement doit aller circuler sur les territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, peut-être rappeler à nos auditeurs ce que ça veut dire être en résidence dans un théâtre, et puis après, voilà, nous raconter un petit peu quel est ce projet en fait qui vient s'adosser à la créa de la mère de Poséidon en Cadi.
Alors, une résidence, ça permet aux artistes de répéter et de créer leur spectacle. Donc, en général, quand on dit on est en résidence, ça dure une semaine, deux semaines ou un mois parfois. Et on a la chance avec le Tangram, la scène nationale d'Évreux-Louviers, de pouvoir répéter dans cette salle au Théâtre Le Gendre. Là, donc, on a passé toute la semaine. Et effectivement, on va jouer en mai au Festival Anthropocène. Donc, on va jouer la mère de Poséidon au Cadi. Et la scène nationale nous a proposé de faire une forme, voilà, hors les murs, un peu plus petite. Voilà, ça va faire entre 1h et 1h10. On ne sait pas encore vraiment la durée du spectacle. Et ça s'intitulera Au pays des hyper, donc d'après des chroniques de Florence Obna, qu'elle a écrit dans Le Monde, en 2019, justement dans un supermarché, dans un hypermarché même. Et on est en train de répéter ça. Donc en fait, voilà, c'est vraiment une adaptation de ce texte qu'on répète en ce moment.
C'est une adaptation faite aussi avec la complicité, enfin, et surtout faite par un auteur qui s'appelle Gilles Ostrowski, qui est un auteur vivant, contemporain. Peut-être rappeler aussi, on parlait de l'ADN de la compagnie tout à l'heure, mais avec le collectif, nous, on essaye vraiment de travailler avec les auteurs contemporains, mais vivants, donc travailler sur de l'écriture vivante. Et donc là, on a proposé à Gilles Ostrowski, qui du coup, lui, est d'une autre compagnie, de travailler avec nous sur l'écriture d'une théâtralité à partir de ces chroniques. Parce que les chroniques de Florence Obna sont magnifiques. Elles sont vraiment, bah, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, JC, on part vraiment du réel, du trivial. Et en fait, on lit, on se dit, mais c'est pas possible. Elle explique, par exemple, deux femmes qui se battent pour récupérer de la viande rouge à un tarif réduit, l'une pour ses enfants, l'autre pour ses chiens. C'est des choses qu'elle a vraiment observées et qu'elle a écrit finalement pendant son mois d'observation à l'Hyper-U de Mende en Lozère. Nous, on est parti de ça. Et puis, avec Gilles Ostrowski, il a réécrit des scènes
plus théâtrales,
qui parfois partent carrément dans le burlesque, auquel on se dit c'est pas possible. Et en fait, bah, si, oui, c'est tiré, oui, c'est théâtral, oui, on touche le rire, parce qu'il y a aussi cette nécessité de toucher parfois pour des sujets qui sont quand même finalement assez odieux quand on y réfléchit. On a nécessité de travailler sur le rire. Et donc, du coup, on travaille là-dessus avec Gilles Ostrowski et Sophie Cusset. Sophie Cusset qui joue dans le spectacle, qui du coup font partie d'une autre compagnie, la compagnie Octavio. Parce qu'avec le collectif, on essaye aussi quand même de s'étendre avec d'autres compagnies, travailler avec d'autres collectifs, finalement mutualiser ses compétences pour aller toucher les publics, c'est toujours la même question. Et pour la résidence, peut-être se dire que pour les auditeurs, c'est essentiel pour les artistes la notion de résidence, puisque c'est le moment de création. Donc en fait, c'est un temps où on peut être juste, on a un lieu qui nous est donné avec parfois de la technique si on le demande, avec un accompagnement possible du théâtre, où du coup, bah, là on ne fait que créer, on ne fait que être là. On peut aussi accueillir, hein, et travailler avec les publics, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est un espace ultra nécessaire pour les artistes. Parce que si on n'a pas ça, bon bah voilà, finalement, l'imagination, la création reste très, très limitée. La forme hors les murs, pour nous, c'est assez essentiel. Puisque ça nous permet, on va faire des ateliers avant avec les jeunes. Puis ensuite, jouer j'ai envie de dire chez eux, c'est pas chez eux, dans leur établissement scolaire ou en fonction.
Dans des lieux qui leur sont communs.
Dans les lieux qui leur sont communs. Et puis, du coup, ça nous permet aussi, et là, c'est un peu une super pour nous, ça nous permet aussi de se dire, mais peut-être qu'on pourrait les intégrer dans le spectacle, mais peut-être qu'on pourrait faire un débat, mais comment, en fait, on fait en sorte que, vu qu'on est dans un lieu qui leur est commun, on travaille sur cette, il n'y a pas de plateau, donc quelle est cette non-frontière, qu'est-ce qu'on réfléchit là-dessus, etc. Donc, il y a tout ça. Tout en partant du supermarché. C'est quand même la base de notre réflexion pour, voilà, au pays des hyper et cette chronique de Florence Aubenas.
Vous aviez, je crois, une petite citation. Enfin, une petite. Une
oui, très citation. Fort en citation.
Est-ce que vous avez envie de nous la partager?
Oui, c'était à la toute base de ce projet, quand on a voulu parler des hypermarchés, de ces lieux communs à tous, on s'est dit, voilà, il se passe tellement de choses. Et donc, on a lu ce livre d'Annie Ernaux qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour ». Et je vais vous en lire un extrait, puis on pourra en parler après, si vous voulez. Si on accepte une catégorie restreinte de la population, habitants du centre de Paris et des grandes villes anciennes, l'hypermarché est pour tout le monde un espace familier dont la pratique est incorporée à l'existence, mais dont on ne mesure pas l'importance sur notre relation aux autres, notre façon de faire société avec nos contemporains au XXIe siècle. Or, quand on y songe, il n'y a pas d'espace, public ou privé, où évoluent et se côtoient autant d'individus différents, par l'âge, les revenus, la culture, l'origine géographique et ethnique, le look. Pas d'espace fermé où chacun, des dizaines de fois par an, se retrouve mis davantage en présence avec ses semblables, où chacun a l'occasion d'avoir un aperçu sur la façon d'être et de vivre des autres. Annie Ernaux. Et donc c'est extrait de son livre qui s'appelle « Regarde les lumières, mon amour » et elle a passé 2 mois dans un hypermarché, donc là c'était à Cergy-Pontoise, et elle a observé les façons de vivre de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment des petits extraits du quotidien qu'on a pu mettre dans la mer de Poséidon en caddie qu'on va jouer en mai, et que là aussi on va, grâce aux chroniques de Florence Aubenas qui ressemble un peu à ce travail, mais qui est plus journalistique, qu'on va jouer en hors les murs dans les lycées autour d'Évreux.
En tout cas, ces deux autrices qui ont un constat quasiment politique et sociétal qui est le même, finalement. Et donc c'est ça qui nous a intéressés aussi. Quand on a commencé à se renseigner au-delà de notre propre intuition de ce lieu un peu trivial, on a commencé à lire, à regarder qui avait étudié le sujet, etc. Et le constat est finalement le même pour tout le monde, c'est que c'est un lieu que tout le monde connaît et dans lequel, tout à coup, il y a plein de populations différentes qui se croisent. Et ça, c'est vachement important. On a un travail très sociologique, en fait. Moi, j'ai fait des études de sociologie, et c'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure d'enquête quantitative, c'est-à-dire on va distribuer des questionnaires et travailler avec, là, tout à coup, 2000, 3000 questionnaires qui vont être envoyés partout. Puis même, parfois, les élèves ou les gens avec qui on travaille, ils vont le faire remplir aussi autour d'eux à 10, 15 personnes. Puis là, ça prend des... Puis après, on va travailler sur quelque chose de plus qualitatif, donc sur un temps un peu... plus privilégié avec les gens, où on va les faire écrire, on va leur faire réfléchir, et puis après amener tout ça au plateau. Voilà, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la société, finalement. C'est pour nous, ce qui nous intéresse, c'est cette société, le regard qu'on peut y porter, et comment on peut, entre guillemets, ensemble, y réfléchir davantage pour vivre mieux. Bon, là, je dis des trucs très, très naïfs, mais, oui. Mais j'y crois profondément.
Ou des prises de conscience aussi, oui, voilà. Pour le public, ce qui va vous aller donner à voir.
Oui, tout à fait.
Le vivre mieux, c'est pas naïf, c'est ce qu'on aspire, c'est à ça qu'on aspire tous, quand même, de se dire, on veut vivre mieux.
Bien sûr.
Et peu importe où on en est, d'ailleurs.
Hein, oui.
C'est peu importe où on en est.
Oui, c'est le vivre mieux, le vivre ensemble. Enfin, après, voilà, la société elle est très fracturée aussi aujourd'hui. On le voit, on se comprend pas. On évolue dans des bulles qui sont toujours les mêmes. Et donc, c'est ce que disait Audrey tout à l'heure. On essaye aussi de sortir de cette bulle, de nos bulles d'artistes où on pense tous la même chose, et d'aller vers l'autre et de réussir à avoir ces témoignages et d'en parler et de le valoriser sur une scène. Et c'est aussi ce que fait le Tangram, finalement, quand on joue en hors les murs. C'est la chance pour ces lycéens. Dans les missions locales là où on va aller, de voir du théâtre et puis d'avoir accès à ça, et puis ils vont entendre des mots qu'ils auraient peut-être pas lus d'eux-mêmes. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une chance formidable.
Puis une chance pour nous aussi, enfin, finalement, parce que c'est une rencontre, voilà, partagée. Et puis je vais revenir par rapport à ce que vous disiez, Cécile, tout à l'heure. Nous on est assez ravis, notre grande réussite c'est qu'effectivement, bah, du coup, quand on joue même dans des théâtres à Paris, bah, on voit débarquer vraiment des jeunes qui n'ont jamais été au théâtre de leur vie, et en fait là ils viennent voir toutes nos créations maintenant, mais par les réseaux, par etc. Et des gens de tout horizon, parce que finalement, on a été vers eux. Donc c'est comme s'ils venaient voir un peu des copains ou des gens qui leur sont chers. Et en fait, c'est ça pour nous la réussite, c'est de se dire que, bah oui, on a passé 10 heures ensemble, c'était fabuleux, mais surtout maintenant, on va un peu garder ce lien, et puis vous allez venir au théâtre, et ça sera pas compliqué. Et non, t'es pas obligé d'être en costard cravate. Bon, voilà, il y a des trucs comme ça très clairs qui sont notés, qui sont dites, et du coup qui créent une complicité très forte. Donc voilà, c'est aussi très très humain, et ça nous permet aussi de questionner notre rapport au vivant aussi. Là, c'est un peu notre recherche au-dessus qui continue. On questionne la société, puis ensuite on questionne notre rapport plus large au vivant. Donc après, on va toucher à l'écologie, à qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis, c'est naïf. Non, c'est pas naïf. C'est tout ce que, c'est ce qu'on souhaite. Mais quel est le monde de demain? Quel est notre rapport au vivant, à l'écologie? Comment on pense tout ça? Est-ce que c'est angoissant? Est-ce qu'on n'en sait rien? Est-ce que tu t'y intéresses pas? Mais du coup, est-ce qu'on ne devrait pas s'y intéresser collectivement? Bon, voilà, c'est toutes ces questions qui nourrissent nos créations et qui fait que on amène tout ça au plateau dans le partage, finalement.
Voilà. Et ça va même très loin sur le plateau, parce qu'il y a quand même une démarche aussi dans la création des décors, dans les costumes, où vous abordez quand même, et vous êtes très attentif à recycler, à renouveler, à réutiliser. Enfin, je veux dire, il y a rien de neuf.
Quasiment pas.
Voilà, on en a. Je sais qu'on. Enfin, ça a fait l'objet d'une discussion une fois, mais voilà, il y a un vrai engagement dans cette idée de dire ok, nos décors, nos créas, elles vont être aussi éco-responsables. Enfin, au maximum, en tout cas, on tend vers ça.
Mais ce serait un peu bizarre de faire un spectacle sur la surconsommation et ça la dénonce un petit peu, puis finalement d'avoir mis 15 000 euros dans une scénographie. Voilà, ce serait, enfin, pour nous, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc effectivement, puis voilà, avec Alix Mercier, avec qui on a travaillé sur la scénographie de La Mère de Poséidon, je parle pas
et de Au Pays des Hyper.
Oui, et de Au Pays des Hyper aussi, mais en l'occurrence sur La Mère de Poséidon, c'est vrai qu'en fait, on a pu récupérer plein de choses en fait dans tous les hypermarchés, ces grandes structures qu'ils ont en carton, que en fait après ils balancent, bah en fait, on a tout récupéré. Enfin voilà, on a fait beaucoup de récup, mais c'était tout le travail de terrain, c'était très intéressant.
On a fait des appels aux habitants pour que les gens gardent leurs bouteilles de lait usagées, parce que du coup pour récupérer énormément de bouteilles de plastique, donc les bouteilles de lait demi écrémées avec les bouchons bleus. Enfin bon, du coup effectivement tout le monde se sentait concerné. On a récupéré. Voilà, une semaine, on a bu beaucoup de lait, c'est pour vous. Enfin, bon, du coup, effectivement, on a récupéré tous les déchets, ce qui va à la poubelle. Mais il y a une certaine colère aussi, de notre côté, de mon côté, de notre côté à tous. Moi, je peux plus entendre que, attention, en fait, de plus en plus on le fait, mais la question de l'impact écologique dans le spectacle vivant, on se l'est très peu posé. Et finalement, du coup, moi j'ai une certaine colère d'entendre, ah là, c'est dur, le réchauffement climatique, tout un espèce de discours... politique nécessaire, mais après du coup on va mettre 24 000 euros à acheter des trucs qui vont servir, parce que on aimerait que les spectacles tournent beaucoup, mais il y a beaucoup de spectacles qui tournent finalement 10-15 dates, enfin maximum. Et là c'est des scénos à 20 000 euros avec des trucs mais ultra polluants, et après on va nous parler d'utiliser plutôt des projecteurs LED. Enfin bon, il y a toute une réflexion comme ça à laquelle on essaye de, en tout cas, on dit pas qu'on fait ce qu'il faut, parce que c'est très compliqué. Mais en tout cas, on essaye d'y réfléchir.
Modestement,
et d'avancer là-dessus, et voilà, et d'y travailler, encore une fois, collectivement.
Dans ce cas, dans vos pratiques, vous réinterrogez aussi le fonctionnement du théâtre, en fait.
Tout à fait.
Voilà. On essaye d'être en constante interrogation. Sur tout, finalement, et pas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pas que en tant qu'artiste, nous, et entre artistes, parce que c'est ça qui est nécessaire, mais entre artistes ou avec vous, si on discute de demain ou en bas tout à l'heure, puis ensuite avec les gens du coin ou le boulanger. Parfois, nous, on a vraiment des fulgurances. On est en train de parler de nos décors avec le commerçant du coin. Et puis, il va nous dire, non, mais attendez-moi ça. J'en ai plein, ça part à la benne. On a des caisses en poisson, par exemple, sur la mer de Poséidon en Cadie. Et c'est au supermarché. Ils nous disent, non, mais attendez ça, on en reçoit 90 par jour et ça part à la benne. Donc là, je vous les lave, j'ai un truc pour laver. Puis ça sent plus le poisson en 3 jours, vous les récupérez. Et là, tout à coup, on se retrouve avec un décor immense, tout blanc, immaculé, quoi. Bon, voilà.
C'est mettre en cohérence aussi le discours avec les actes. Ouais. Et ça, de manière plus large, en fait, même dans le monde dans lequel on vit. Parce que le discours, on parle d'écologie là, mais ça va sur le point social, ça va sur tout un tas d'autres éléments. Le discours, il est là, on sait ce qui est bon, on sait ce qui... Enfin, il y a un parler correct, on va dire, presque. Et puis dans les actes, il y a cette flemme peut-être généralisée. C'est aussi, au bout d'un moment, se dire... ce qu'on dit, ben on le fait, et puis on le vit même, au-delà de juste le dire, ou de dire aux autres de le faire d'ailleurs. Parce qu'il y a parfois des propos un peu comme ça, où on a l'impression qu'on a une leçon, et puis on dit, mais faites-le vous.
Oui, non mais c'est ça, c'est comment, en fait, ça rejoint ce qu'on disait au début sur comment on fonctionne ensemble. Nous, étant donné qu'on est un collectif, en fait, on est tous responsables. Donc on peut pas se cacher derrière quelqu'un d'autre et dire, non mais finalement, voilà. En fait, on est tous responsables, donc quand on achète quelque chose, si on n'a pas eu le temps, ben j'ai pas eu le temps, du coup j'ai commandé sur Amazon le câble qu'on n'avait pas, ben en fait c'est parce que tous ensemble, on est tous responsables, on n'a pas assez pris ce temps-là, et en fait ça nous éduque tous ensemble, et le mode de gouvernance va aussi en lien avec la prise de décision et la responsabilité devant nos paroles et comment on tient nos engagements.
Alors c'est pas facile, il y a plein de fois où on échoue, enfin il faut quand même le dire, là ça paraît.
C'est la question, je dis mais là, attention, des fois ça peut être un peu kafkaïen et heurte à quand même des prises de tête là.
Ouais, alors Amazon ça nous est jamais arrivé, mais acheter neuf ça nous est quand même arrivé, enfin là je veux dire, et puis même de façon personnelle au-delà du théâtre, on se dit ah non, on fait attention, puis on a quand même acheté ce haut chez H&M, enfin je veux dire voilà, il faut pas non plus être ni dans le jugement, c'est pour ça qu'on parle d'interrogation, c'est nécessaire de s'interroger et d'essayer de faire et d'être effectivement, nous on se pose toujours la question de la cohérence de nos actes artistiques et notre pensée politique ou sociétale quoi. Donc là on essaye d'être en cohérence, mais c'est, enfin voilà, on est des êtres humains comme tout le monde et tout le monde, enfin, et puis on revendique beaucoup, et dans nos ateliers on revendique le droit à l'erreur constante, enfin parce que pour le coup l'idée c'est pas de dire attends tu dis ça faut que tu sois parfait, c'est l'idée de se dire ok on se dit tout ça mais qu'est-ce qu'on fait, enfin finalement c'est toujours se dire ok qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit sympa pour toi, sympa pour moi, sympa pour les autres, et que en fait finalement ensemble on puisse on puisse trouver une solution à tout ça. Et puis ce qui est super, c'est qu'on se rend compte quand même que pour revenir sur Au Pays des Hyper, on n'est finalement pas tout seul dans cette démarche, et plus on est nombreux, plus on se questionne ensemble. Parce que là, on n'a pas cité, il y a quand même deux autres personnes qui sont avec nous dans cette résidence, qui sont encore au théâtre actuellement, qui sont Anthony Lozano et Sophie Cusset, qui eux ne font pas partie de notre collectif, mais qui sur cette forme hors les murs, Anthony a dit bon bah voilà, moi je viens parce que cette question que vous posez par rapport au public, ça m'intéresse. Est-ce que on travaille ensemble, je vais être regard extérieur. Sophie, en tant que comédienne et ses années de pratique avec les publics, elle a dit bah ouais, moi aussi ça m'intéresse. Bon bah ok, bah tous ensemble là, on va partir là-dessus. Pendant qu'une autre partie de l'équipe travaille sur le harcèlement scolaire, sur une autre pièce. Enfin voilà, on n'est pas non plus. Enfin, c'est très important pour nous de toujours être ouvert à plein d'autres pratiques, plein d'autres façons de penser, parce que c'est que comme ça qu'on évolue. Et du coup, c'est un peu. C'est un peu ce qu'on revendique, pardon. Je touche les téléphones autour de moi, je suis désolée.
C'est ça, mais vous faites bien d'éteindre tous les téléphones qui sonnent, peu importe à qui il est.
Non, j'ai cru que c'était le mien en fait.
Il était assourdi.
Je propose, parce que on dit plein de choses, on pourrait vous garder une heure de plus, hein, effectivement. C'est tout à l'heure, avant de commencer l'émission, Audrey, vous disiez, mais c'est long, une heure, et vous rendez bien compte que ça va être trop court.
Surtout qu'on n'a même pas parlé du spectacle.
Mais oui, moi j'en étais là. La mère de Poséidon, peut-être on en parle un petit peu.
Mais c'est ça, c'est ça. Et alors, je vous propose qu'on passe quand même, et on conclura pas avec Nicoletta, mais on fera une rupture avec Nicoletta, et on revient pour parler de la mère de Poséidon en caddie, juste après, ce qui nous oblige à tourner la page, en fait, finalement.
Ok.
Voilà. Et ben voilà. Mmh. On s'écoute, du coup, Nicoletta. Peut-être un mot, Audrey, sur pourquoi ce choix, en fait, parce que c'est quand même vous qui nous avez dit non, ce serait bien Nicoletta.
Alors, ça va spoiler la pièce, là.
Ah bon?
Non, je vais pas spoiler. Effectivement, j'ai dit, non, mais aussi, bon, alors déjà, j'adore Nicoletta, je trouve ça assez beau, je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de voix. Et puis, moi, j'aime beaucoup les femmes, enfin, je veux dire, j'ai envie de défendre les femmes aussi. Mais au-delà de ça, c'est parce qu'on parlait de Gaël Faye et que, en fait, moi, je suis pour vraiment au plateau et dans les créations. Travailler sur le mélange des genres, oui bien sûr le rap, oui bien sûr plein de chansons, mais moi j'adore la chanson française aussi, j'adore ce qu'elle renvoie, et en fait pour moi ça ne m'arrive jamais dans aucune de mes créations qu'il n'y ait pas au moins une petite chanson française, parfois un peu ringarde, mais qui du coup emmène vers autre chose. Bon voilà, donc le mélange des genres et Nicoletta parce que je l'aime beaucoup, voilà.
L'amour et le soleil séparés. Il est mort, il est mort, le soleil
porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Hier, on dormait sur le sable chaud. Hier, pour moi, il faisait beau. Il faisait beau même en hiver. C'était hier. Et mon âme s'habille de gris. C'est pareil.
Nicoletta, il est mort le soleil. Merci Audrey.
Avec plaisir. Alors maintenant, parlons aussi du sujet du spectacle, puisque la mère de Poséidon, Encadie, va aussi se donner au tangramme. Alors, là, je vous dirai, je vous lance un petit challenge de nous présenter ce spectacle en quelques minutes pour aussi convaincre nos auditeurs et puis.
Là, s'ils sont pas convaincus après les trois quarts d'heure d'échange, là.
On peut dire c'est super.
Mais au-delà, c'est super.
Non, c'est un spectacle. Déjà, faut le contexte rapidement. On l'a bâti après des années d'action culturelle de terrain, donc auprès de énormément de publics, des jeunes, des anciens, dans beaucoup d'endroits suite au confinement. On est allé même dans les hypermarchés en immersion avec les employés. On a suivi leur travail au quotidien. On a observé. Enfin voilà, c'est vraiment des heures et des heures d'enquête à la sortie des hypermarchés pour en faire un gros travail de collecte. Ensuite, un auteur qui s'appelle Van Olsen, qui est aussi slammer, rappeur, performeur, a écrit à partir de cette matière. Donc c'est vraiment un texte écrit par cet auteur francophone. C'est une fiction. On arrive. Au tout début, on est un peu surpris, on s'attend à ce que ça parle du supermarché, mais en fait, on arrive, on est en plein milieu de l'océan, deux pêcheurs, et il n'y a plus de poissons. Et après, on arrive dans l'hypermarché, et en fait, il n'y a toujours pas de poissons. Donc en fait, ça va être un petit peu le running, l'histoire en fait de cette... et comment tout ce monde va partir un petit peu, j'ai envie de dire, s'écrouler.
En vrille.
Voilà, en vrille. Non mais moi, je voulais... c'est un peu cette idée-là. Et donc on a voulu flirter avec les mythes que peuvent nous inspirer ces figures de la grande distribution, ces grandes marques, ces grandes images, ces promotions. Donc il y a un lien dans les spectacles avec la mythologie, d'où le titre « La mère de Poséidon Encadie ». Donc je ne vais pas trop en dire non plus, mais voilà, on trouve c'est une galerie avec l'équipe de l'hypermarché, le patron complètement surexcité avec son équipe qui essaie d'obéir aux ordres et de faire que les gens consomment, les clients. Donc il y a des fois des scènes issues de la vie réelle et il y a des fois de la fiction. Voilà, on a vraiment voulu transfigurer ce réel pour l'amener au plateau. Donc pas seulement du théâtre documentaire, mais vraiment une fiction avec une histoire, avec des personnages de ce monde de la consommation.
Qui part dans le fantasme, et peut-être ajouter que ce spectacle a une particularité, c'est qu'on travaille avec Gaëtan Trovato, qui est vidéaste, et on a vraiment travaillé sur l'image parce que beaucoup nous ont dit que le supermarché, c'était beaucoup de publicité, beaucoup d'images, des couleurs constantes, etc. Et donc du coup, il y a un fort travail sur la vidéo, sur le... En fait, on a travaillé sur la farce, mais sur le trop, parce que cette société pour nous et le supermarché, c'est trop, tout est trop. Donc du coup, parfois, ce spectacle, on fait waouh, c'est beaucoup. Ouais, mais qu'est-ce qu'on vit? On vit, c'est beaucoup aussi au quotidien. Donc il y a vraiment cette question aussi de tout ce qu'on accepte. Et du coup, tout à coup, on le voit en spectacle, et on se dit, non, mais là, c'est... Ouais, mais en fait, voilà, retransposons à notre réalité, quoi. Je t'ai coupé, Noé, parce que... Voilà,
non, mais c'est bon, j'avais fini.
Donc, c'est la mère de Poséidon en caddie. Ce sera le mardi 21 mai à 20h, au Théâtre Legendre, dans le cadre du festival Les Anthropocènes. Le rendez-vous est pris. Et puis, la petite tournée, du coup,
au pays des hypers,
au mois de mars, sur le territoire.
Avec Sophie Cusset, Noé Pliger, moi-même et Anthony Lozano.
On a, hors les murs du théâtre, une idée de la tournée de...
On l'a pas en tête. Moi, je l'ai pas en tête, donc je préfère pas dire de bêtises.
Après, on a un petit peu. Donc, ce sera entre le 18 mars et le 27 mars. Donc, on part dans plusieurs établissements et des missions locales. Donc, on va aller aux Andelys, on va à Évreux, l'établissement Senghor. On va aller aussi à Neuville, je crois. Enfin, voilà, on va un petit peu dans des villes de la région.
Ouais. Est-ce qu'il y aura des représentations tout public? Parce que j'imagine que quand c'est dans un lycée, quand c'est dans une mission locale, c'est sur les publics des structures. Est-ce qu'il y aura des représentations tout public? On ne sait peut-être pas encore. Hein. Je suis en train de lancer un truc là.
Il faut demander à la directrice du Tangram beaucoup d'argent pour qu'on puisse jouer partout.
A priori, non. C'est vraiment un travail en fait de sensibilisation, aussi un travail en amont. Parce qu'en fait, après, la plupart de ces jeunes vont venir voir aussi la mère de Poséidon en caddie, parce qu'on joue à 20h, là, tout public, mais on joue aussi à 14h. On jouera deux fois dans la même journée. Voilà, donc c'est aussi histoire d'aborder d'abord le sujet avec eux, et puis ensuite, quand ils viendront, ça complétera.
Puis étape par étape, peut-être qu'après, ça sera dans une salle. Pour l'instant, c'est que du hors les murs.
Ok, c'est aussi le charme du hors les murs. Ouais, j'aime bien cette forme aussi de hors les murs.
Merci Audrey et Noé,
de vous avoir
sur
beaucoup.
Cette émission.
Bravo Noé.
Mais nous aussi, on fabrique des petits moments de off et c'était très bien. ce qui nous amène, sans trop de retard pour une fois, à notre agenda non exhaustif, en tout cas, ce qui a attiré notre attention en particulier.
Oui, alors on a très prochainement, la semaine prochaine, au cadran, plusieurs rendez-vous. Un rendez-vous jeune public mardi soir avec Cartoon ou N'essayez pas ça chez vous, un texte de Mike Kenny, mis en scène par Odile Grosse-Grange, la compagnie de Louise. Ce sera mardi 13 février à 20h au cadran. La même semaine, on change...
Alors je me permets juste, comme c'est marqué Cartoon, est-ce que ça s'adresse au jeune public aussi?
Oui. J'ai dit, c'est un jeune public.
Ah, j'écoutais pas.
À partir de 7 ans. Voilà. Oui, à partir, voilà.
Mais je vais fermer les lignes.
Mais je l'ai dit.
Ouais, autant pour moi.
et puis après, autre registre, on accueille deux figures de la musique, des pianistes, les sœurs Labec, Katia et Marielle Labec, avec deux concertos, Orphée et La Belle et la Bête. Ce sera jeudi 15 février à 20h au cadran. Voilà, je crois qu'il y avait les scènes ouvertes.
On peut dire aussi pour ce soir, s'il reste de la place, le livre de la jungle.
Et ce soir, merci.
Le livre de la jungle, d'après l'œuvre de Kipling, par Marc-Antoine Dupin.
Oui.
Et l'orchestre de l'Opéra de Rouen, par un récitant narrateur, aussi comédien de l'histoire.
Et alors, sur ce soir aussi, si vous voulez plutôt de la musique, je suis en train de chercher parce qu'il y a un super concert qui se fait au Silo à Verneuil-sur-Avre et je suis en train de chercher le prénom de Madame Ténéré qui m'a échappé. Morjane Ténéré qui sera en concert ce soir à Verneuil-sur-Avre au Silo sur une formule cabaret et on est sur un pop rock touareg. Voilà, j'aime pas mettre des étiquettes musique du monde, mais là on est vraiment sur un mélange du monde sur sa musique et c'est assez immanquable si on choisit cette option.
Ouais.
Voilà. Et ça avait attiré mon attention.
Et si on a encore deux petites minutes, j'avais noté aussi la scène ouverte de la MJC le 24 février
Tout à fait.
Avec un concert de
Boucaro. Ils seront quatre groupes sur la scène.
Mais notamment Boucaro Banzai, ouais.
Et tu fais bien de le dire, Nathalie, parce que c'est une excellente nouvelle. C'est le retour des scènes ouvertes de la MJC. Ce sont les seules ouvertes les scènes ouvertes hébroïciennes pour les groupes locaux, régionaux. C'est souvent le premier pas sur le plateau pour les groupes. Or, Boucaro Banzai, non. Ce n'est pas les premiers pas sur le plateau.
On va dire que c'est ce qui va attirer aussi le public à découvrir.
Mais c'est une excellente nouvelle. Ouais. C'est le début, c'est le retour des scènes ouvertes de la MJC. On avait une période sans scènes ouvertes. C'est généralement le vendredi ou le samedi avant les vacances scolaires. C'est calé plutôt comme ça. Et ce seront des rendez-vous que nous retrouverons tout au long de l'année maintenant. C'est une super nouvelle.
Ouais. Et puis, bien sûr, allez vous renseigner, les internets, les journaux, les réseaux sociaux, pour tous les rendez-vous de sortie culturelle à Évreux, mais aussi plus aux alentours. Voilà.
Exactement. On arrive à cette fin d'émission avec notre tradition de l'extrait de film, Nathalie.
On fait le film.
Non, il y avait une autre date, c'est ça?
Non, on fait le film.
Ah non, oui, tu as raison.
On conclura sur la conclusion. Alors, la coutume de notre émission, nous terminons par un film. Et là, je vous ai choisi un dessin animé récent de Pablo Berger. C'est un dessin animé muet. Il s'agit de Mon ami robot. Vraiment un dessin animé tout public, rempli de poésie et d'humour, qui parle d'amitié, d'empathie, de bienveillance, de comment on peut faire quand on a quand même pas mal d'obstacles qui arrivent, et puis la solitude, comment ça se passe quand on vit dans un Manhattan et qu'on se retrouve seul et finalement qu'on est une personne avec plein de générosité, comment on se débrouille avec tout ça. Donc je vous conseille d'aller voir Mon ami robot, ça passe, c'est sorti en décembre 2023 et ça passe encore dans certaines salles, allez-y. Et la bande-son, du coup comme c'est un film muet, la bande-son est assez sympathique.
Alors juste avant de retrouver cette bande-son pour nous quitter, nous embrassons Cécile qui après plus de 10 années de bons et loyaux services de scène de vie ne va pas assurer forcément les prochains scènes de vie parce que tu es pour des bonnes raisons, des raisons très positives, es amenée à pour des raisons professionnelles à aller beaucoup plus loin, tu ne seras plus notre correspondante Tangram.
Et non, effectivement, je m'en vais vers de nouvelles aventures à partir du mois de mars. Évidemment, les micros s'arrêtent, en tout cas dans le cadre de Scènes de vie. Les micros s'arrêtent pour moi. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui, je ne serai pas loin, mais effectivement, je ne serai plus une des voix de Scènes de vie vite scène.
En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ces plus de 10 années de scène de vie vide scène avec toi. C'est important de le dire aussi. T'as toujours un siège à ton nom de toute façon dans l'émission.
Je suis pas loin de toute façon.
Oui, mais dans l'émission, t'as toujours
un
siège à ton nom.
Avec grand plaisir.
C'est ce que j'allais dire. Cécile, c'est avec aussi beaucoup d'émotion parce que c'est une action partagée où la porte s'est ouverte à un moment pour toi et voilà, tu as su rentrer et saisir dans cette belle aventure. Merci pour tout de ta présence, de ce travail ensemble qui a été à chaque fois magnifique et humain.
On s'est bien marré quand même.
Et qu'est-ce qu'on s'est marré aussi. Et en effet, la place, il y aura toujours le siège pour toi à tout moment. Quand tu seras là, Scène de vie sera toujours ouverte.
Avec grand plaisir.
On vous donne rendez-vous pour Scène de vie, vide scène au mois de février. Voilà, dans tout ça, j'ai pas la date précise, mais vous saurez retrouver vous-même dans votre agenda le premier vendredi du mois.
Mars.
C'est le 1er mars? Vendredi 1er mars, ce sera votre numéro du mois de mars de Scène de vie, vide scène. On se quitte avec Mon ami robot.